les élèves du collège Marcel Pirel de Marvejols ont le plaisir de vous offrir la série de podcasts « Qu'est-ce qu'on mange à midi ?». L'objet est de vous présenter nos menus. Le chef de cuisine et son équipe expliquent la diététique et la nutrition discutée avec nos fournisseurs locaux. Le tout pour que vous puissiez apprécier faire pareil à la maison.
Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter Laure Mallet-Leprince, diététicienne Amande. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, bonjour.
Cette interview aura pour but d'améliorer l'alimentation au sein du collège. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, donc Laure Mallet-Leprince, diététicienne nutritionniste. Je suis spécialisée notamment dans le suivi des enfants et adolescents en surpoids et en obésité, mais je fais des suivis aussi beaucoup plus généralistes. En tant que diététicien, on peut aider quand il y a certaines pathologies, notamment le diabète. Je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie qui est en lien avec un excès de sucre dans le sang notamment. On peut avoir des suivis de patients qui ont des pathologies plutôt digestives ou plutôt des pathologies cardiovasculaires. Mais on peut aussi suivre des personnes qui sont simplement curieuses et soucieuses de s'alimenter différemment ou un petit peu mieux.
Si vous devez donner une définition du mot nutrition, quelle serait-elle ?
Alors, j'ai choisi de prendre une définition d'abord du Robert, qui est assez édifiante. Donc, la nutrition, selon le Robert, c'est l'ensemble des phénomènes, donc l'assimilation, l'excrétion et respiration, qui ont lieu dans un organisme vivant et qui permettent la production d'énergie vitale. D'accord ? Mais la nutrition, c'est aussi une science qui est à la croisée entre les sciences et vie de la Terre et la chimie organique, entre autres. Voilà.
Merci. Quel est le rôle de la nutrition pour notre corps ?
Alors, la nutrition, c'est vraiment l'apport de nutriments nécessaires au bon fonctionnement des cellules, donc qui constituent le corps humain. Et puis, quand vous m'avez posé cette question, j'ai tout de suite pensé à l'alimentation, puisque nutrition et alimentation vont de pair. Donc, c'est vraiment les apports énergétiques qui sont nécessaires pour assurer les fonctions vitales de base, quand je respire, quand mon cerveau fonctionne, même quand on dort. Et puis ça s'adapte aussi, on a des besoins qui sont différents, notamment quand on est en phase de croissance comme vous, et puis en fonction de notre dépense énergétique, on va avoir des besoins plus ou moins importants. Si je fais du sport, si je fais pas de sport, si je révise pour un contrôle, si je suis tranquillement en train de me reposer, les besoins seront différents.
Quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation ?
Alors, vous voulez parler d'une alimentation déséquilibrée ?
Oui.
Alors, dans ce cas, les conséquences, elles peuvent être diverses. On peut avoir des carences, c'est-à-dire un manque. Donc, on peut manquer de minéraux, de vitamines, voire même d'énergie. Il faut se rappeler que les nutriments apportent des kilocalories, qui vont être utilisées par les cellules du corps pour fonctionner. Donc, on peut avoir moins d'énergie, on peut tomber malade plus souvent, parce qu'on va avoir un système immunitaire qui ne sera pas suffisamment robuste. On peut avoir des carences, par exemple la carence en fer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'anémie, quelqu'un qui aurait une carence en fer, qui serait plus fatigué, qui serait essoufflé plus rapidement. Donc on voit que les conséquences d'une mauvaise alimentation, elles sont assez variées. Et puis ce qui est important, c'est aussi de se rappeler que ça passe par une bonne santé au niveau digestif et notamment au niveau des intestins. Donc si on a une alimentation qui est pauvre en fibres, on mange peu de légumes, peu de fruits, ou pas souvent, ou pas suffisamment, on va avoir une diversité dans la population de bactéries qui peuplent le côlon, le fameux microbiote. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du microbiote intestinal, qui est vraiment très important. Et si cette diversité est réduite, ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du corps et sur la santé en général.
Merci. Quels sont les principaux nutriments essentiels pour la santé ?
Alors, on va distinguer trois grands groupes de nutriments. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous voulez vous lancer ?
Ah non, c'est pas...
Est-ce que tu veux essayer de te lancer dans les...
je ne sais pas, est-ce que le produit laitier, par exemple, ça marche ou pas ?
Alors, les produits laitiers, ouais, c'est un sous-groupe. Alors, on a vraiment ce qu'on appelle les macronutriments. C'est vraiment les grandes catégories Dedans, on va avoir les protéines, les glucides et les lipides. D'accord. Et ensuite, les produits laitiers, ça va être quelque chose qui fait partie notamment de notre pyramide alimentaire, mais ça sera un sous-groupe. D'accord. Et donc, dans ces macronutriments, les protéines, est-ce que vous savez par quoi elles sont apportées ?
Je crois que c'est par les fruits et légumes, mais je ne suis pas sûre.
Alors, pas tout à fait. Donc, ça sera plutôt par tout ce qui est viande, produits animaux, les œufs, les produits laitiers. Donc là, on va trouver les protéines. C'est vraiment les constructeurs, en fait. C'est ce qui permet de construire notamment les muscles, d'accord ? Les bâtisseurs. Puis après, on va avoir les glucides. Les glucides, alors, on va les trouver plutôt dans les féculents, plutôt dans les pâtes, dans les produits, dans les farines, dans les fruits à coque. Et après, les lipides, c'est ce qu'on appelle le gras, d'accord ? Donc, les lipides, en fait, on peut les trouver, ben, on peut en trouver dans des produits laitiers, on peut en trouver dans de l'huile, on peut en trouver dans du beurre, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment des nutriments essentiels. Et ensuite, on a plein d'autres petits groupes. Et on va avoir ben, notamment les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments, qui sont également essentiels.
Peut-on consommer du pain à chaque repas ?
Alors, j'imagine que vous posez cette question parce qu'il a mauvaise réputation, parce qu'il fait grossir, c'est ça ?
Pas forcément, c'est juste que souvent on en mange beaucoup parce qu'on aime bien. Et souvent, à la cantine, quand on n'aime pas forcément le plat, on essaie de manger pas mal de pain pour essayer de se nourrir, pour ne pas avoir trop faim.
Ouais, je comprends tout à fait. Alors, c'est vrai que le pain, ça a un intérêt nutritionnel parce que c'est facilement, accessible. Ça s'accommode à peu près avec tout. En général, on aime toujours le pain et c'est assez c'est globalement bon marché. Du coup, ma réponse, ça serait plutôt en termes de qualité. Est-ce que c'est un pain blanc, une baguette blanche basique ?
Oui, on a soit du pain aux céréales, du pain blanc et certaines fois, ils nous proposent du pain complet.
D'accord, donc je vois qu'il y a un travail voilà, qui a été fait au niveau de la qualité du pain au sein de la cantine, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai encore faim après le plat principal ? Ça peut être une question qui peut guider sur est-ce que j'ai besoin de pain. Si dans ce cas, le pain peut être consommé sans problème. Est-ce que j'ai pris le temps de manger ou est-ce que j'ai mangé au lance-pierre et du coup, j'ai toujours la sensation d'avoir faim en fin de repas parce que j'ai pas suffisamment pris le temps de mastiquer, de prêter attention à mes sensations de faim et de satiété. La satiété, c'est l'absence de faim entre les repas, d'accord ? Donc voilà, et ça peut être en effet, je suis peut-être un petit peu difficile ou le repas me convenait pas aujourd'hui et du coup, j'ai compensé par du pain. Donc ça peut être une plus ou moins bonne idée, mais il faut savoir, raison garder et être malgré tout dans la modération. Et après, pour les autres repas, au petit déjeuner, le pain, c'est un aliment idéal pour démarrer. Au goûter avec du chocolat, ça fonctionne très bien aussi. Et pourquoi pas, le soir, une petite portion pour accompagner le fromage.
Merci. Quelle est l'importance du petit déjeuner ?
Est-ce que vous prenez un petit déjeuner ?
Oui, oui.
Alors, il est composé de quoi ?
Moi, souvent, je prends soit un jus de fruits avec... souvent, je prends une orange, je la presse, du coup je fais du jus d'orange avec une clémentine et un petit croissant.
Ok.
Moi je prends la plupart du temps un jus de fruits avec un chocolat chaud et des biscuits.
D'accord, ok. Donc toutes les deux vous avez déjà le bon réflexe de prendre un petit déjeuner. Et en effet c'est vraiment le repas crucial pour bien démarrer, d'accord ? Donc il y a souvent des ados qui disent « moi le matin, j'ai pas faim ou j'ai pas le temps ». Alors l'astuce déjà, c'est de boire un verre d'eau au lever quand on n'a pas faim parce que ça permet comme ça d'aller remuer un petit peu au sein de l'estomac et de stimuler un petit peu la sensation de faim, d'accord ? Et puis se lever assez tôt, il n'y a pas de secret, si on met son réveil un petit peu plus tôt et qu'on se lève ou qu'on se lève de suite quand il sonne, on a un peu plus de temps devant soi pour prendre le petit déjeuner, d'accord ? Il est important ce petit déjeuner parce qu'il va donner de l'énergie pour être suffisamment attentif et posé pendant une longue matinée de cours. Parce qu'en général, la matinée, elle est longue et vous avez parfois cours de sport, enfin peu importe. Ça évite vraiment d'avoir un coup de barre et puis d'arriver affamé à l'heure de la cantine. C'est bien d'arriver avec de la faim à l'heure de la cantine, c'est normal. Mais si on est affamé, on va avoir envie de se jeter sur le repas. Et alors là, les morceaux de pain, ça va y aller. Donc une bonne journée, ça démarre par un petit déjeuner nourrissant.
Doit-on privilégier certains aliments et en bannir d'autres ?
Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a des choses qu'on devrait totalement éliminer de l'alimentation ?
Bah, pas forcément, mais qu'il faut faire avec précaution, qu'il ne faut pas en prendre tous les jours, des produits trop sucrés comme des bonbons, du chocolat. Et il y en a d'autres qui sont bien sûr très importants, les fruits, les légumes.
Super, mais tu as fait la réponse à ma place, mais j'apporterai quand même des petites nuances. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté ? Non. Tu es d'accord avec elle ou tu serais plutôt en contradiction ?
Non, d'accord. Tout ce qui est sucre, il faudrait éviter, pas bannir, mais réduire la consommation. Par exemple, une fois dans la journée à 4 heures ou au petit déjeuner. Et tout ce qui est fruits et légumes, en manger beaucoup plus souvent.
D'accord, on mangeait souvent, super. Bon, encore une fois, hein, c'est un peu comme avec le pain, la modération, c'est la clé, d'accord ? Donc, on peut limiter certains aliments, et en privilégier d'autres, mais sans être trop radical non plus, d'accord ? Par exemple, si on prend tous les aliments ultra transformés, donc ceux qui sont très loin d'un état naturel brut, d'accord ? Avec une recette, une liste d'ingrédients qui est très importante, par exemple, et avec des additifs. Ok, donc ceux-là, je sais pas, par exemple les plats tout préparés, des barres chocolatées très sucrées, des sodas, ils peuvent être consommés de manière exceptionnelle, plutôt pour les occasions, d'accord. Je sais que les ados sont très friands de soda. Souvent, on sort des cours, on va acheter une bouteille de soda. Bon, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Il faut imaginer que ça fait un apport de sucre très très important pour son corps. Et ce dernier va devoir gérer avec ça. Et sur le long terme, ça risque d'être plutôt néfaste. D'accord ? Donc là, on peut dire oui pour limiter et puis se faire plaisir parce que ça reste important. Petit rappel pour s'hydrater, l'eau, c'est la meilleure source. Hein, d'accord ? Et après, on peut introduire, comme tu disais, suffisamment de légumes et de fruits dans la journée. Donc au moins aux deux repas principaux. Et puis... si on en consomme, par exemple, je ne sais pas moi, on a l'habitude de consommer des légumes une seule fois par jour, ben on peut essayer de rajouter une petite touche, un petit bol de soupe le soir ou une petite entrée de crudité pour progressivement augmenter sa portion. D'accord ? Voilà pour cette petite réponse.
Merci beaucoup. Pouvez-vous nous donner une journée type avec une bonne alimentation ?
Ok, une journée type pour un ado.
Oui.
Ok, vous avez quel âge ?
Moi, 12 ans et 12 ans et demi.
D'accord, ok. Donc, vous êtes à un âge, vous avez encore des besoins pour la croissance, en plus des besoins énergétiques de je travaille, je réfléchis, je fais du sport. Ok, tout ça, ça demande une alimentation assez variée. Une journée type, ça serait composé de 4 prises alimentaires. Donc, on aurait un petit déjeuner. Alors, dans l'idéal, ce petit déjeuner... il comporterait une boisson pour s'hydrater. On peut éviter tout ce qui est produit très sucré au petit déjeuner. En fait, de démarrer avec quelque chose qui serait, pourquoi pas, un fruit, c'est une bonne idée. On peut boire un verre d'eau, on peut boire du lait, on peut boire une tisane, pourquoi pas. Et puis ensuite, si on a suffisamment faim pour manger, par exemple, du pain avec du beurre, ça fonctionne bien. Puis on a certains ados aussi qui sont d'accord pour manger plutôt des choses de type... du jambon blanc, voire un œuf au petit déjeuner. Et ça, ça va vraiment permettre d'éviter d'avoir la glycémie, donc le sucre dans le sang qui monte en flèche, et puis d'un coup, quand ça descend fort, d'avoir un gros coup de barre. D'accord ? Il y a plein d'autres petits déjeuners, hein, mais c'était pour en citer qu'un parmi plein de choix. Ensuite, un repas du midi avec ce qui est proposé normalement à la cantine. Donc, c'est vraiment l'assiette équilibrée avec... des légumes, des féculents et des protéines. Et puis en général, on va plutôt garder un produit animalier, donc de la viande, du poisson ou des œufs. On va plutôt le privilégier à midi. Voilà. Et puis en dessert, vous avez en général un produit laitier, yaourt ou fromage, et puis un fruit. Le goûter, en général, il reste vraiment nécessaire à votre âge, d'accord, pour bien continuer le reste de la journée. Et puis... ça permet de faire une coupure. Parfois, ça redonne de l'énergie avant de partir au sport, à la musique, au théâtre, aux activités qui suivent, avant de faire les devoirs. Et puis, ça permet d'éviter aussi, encore une fois, d'arriver affamé au dîner. Parce que parfois, on se retrouve avec des dîners pantagruéliques, ce qui explique aussi que le matin, ben, j'ai pas faim quand je me lève. Donc, cette répartition, comme ça, elle est idéale. Et au dîner, on pourrait avoir des féculents, des légumes, éventuellement une source de protéines. Et ça pourrait être aussi une source de protéines végétales. On pourrait avoir des lentilles, des pois chiches. Voilà, c'est des choses qui sont aussi travaillées avec la loi Egalim au niveau de la cantine. Donc, vous avez des repas végétariens de temps en temps, a priori. Voilà. Et puis, en dessert, on pourrait avoir, encore une fois, soit un fruit, soit un produit laitier. Et pourquoi pas, de temps en temps, une petite pâtisserie ou une crème dessert sucrée.
Merci. J'aurais une dernière question qui m'est venue en entendant vos réponses. Ce serait que quand on a sport l'après-midi et imaginons on ne se sent pas bien, on a une sorte de malaise un peu, est-ce que ce serait lié par exemple à ce qu'on a mangé au petit déjeuner, qu'on aurait trop ou pas assez mangé ?
Dans l'après-midi, l'activité sportive ?
Oui.
Alors, ça pourrait avoir des conséquences, en effet, ce qu'on mange au petit déjeuner, mais ça va être, en général, ça va être quand même plus immédiat, ça risque plutôt de dépendre de ce que vous avez mangé à midi. Est-ce que vous êtes nourri suffisamment ? Est-ce que vous avez mangé uniquement du pain et puis un dessert sucré parce que vous n'aimiez pas le repas ? Il n'y avait peut-être pas assez de fibres. Vous n'avez pas mangé les légumes. Donc, ça pourrait avoir une incidence. En général, c'est quand même plus directement lié au dernier repas. Mais néanmoins, oui, le premier repas va permettre d'apporter une énergie quand même progressive sur le reste de la journée.
Merci. Moi aussi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que si on mange vraiment trop de produits laitiers, parce que moi j'adore le fromage et j'en mange vraiment beaucoup à chaque repas, et je voulais savoir est-ce que ça peut être un peu dangereux pour notre corps ou pas ?
L'excès, c'est comme tout en matière d'alimentation ou autre, c'est toujours, ça peut être problématique à un moment donné, d'accord ? Les produits laitiers, on sait qu'ils apportent du calcium, ils apportent des protéines, entre autres. En plus de ça, ils sont intéressants pour le microbiote, donc les bactéries intestinales dont je vous parlais, là, qui sont quand même, on connaît maintenant leur rôle et on sait qu'elles ont vraiment des super pouvoirs, d'accord ? Donc, pourquoi pas en consommer à chaque repas, mais peut-être dans des quantités raisonnables. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Le fromage est gras, donc il pourrait potentiellement favoriser un excès de cholestérol, d'accord ? Un excès de gras. Donc le cholestérol, c'est un des deux gras qu'on a au sein de notre corps, qui est source de vie, qui est extrêmement utile, parce que notamment, il permet la construction des cellules, des membranes des cellules, il permet de recycler et d'ailleurs de créer de la bile. Enfin, on en a vraiment besoin, mais en excès, ça pourrait être néfaste. Donc, modération et plaisir.
Oui, bien sûr.
Une autre question. Ce serait que, est-ce que c'est pareil avec tout ce qui est produits laitiers ? Est-ce que tous les produits laitiers, c'est comme le fromage, une trop grosse consommation, c'est nuisif à la santé ?
Je vais faire la même réponse. Hein. C'est une histoire de variété. Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui est variée et qui va aller piocher dans tous les groupes alimentaires. Donc, on pourrait imaginer qu'on puisse manger, par exemple, des amandes. Les amandes, elles vont contenir aussi du calcium, par exemple. D'accord ? Donc, on va piocher dans un autre groupe alimentaire. Mais avoir un champ alimentaire, un panel alimentaire très large, va être beaucoup plus bénéfique à notre santé que d'être restreint sur un groupe en particulier. D'accord ? On peut voir des troubles digestifs si on boit trop de lait. Ensuite, au sein des produits laitiers, il faut se rappeler quand même qu'il y a une grande variété. Donc, en effet, si vous mangez des petits Suisses, un coup du fromage de lait de vache, un coup du fromage de brebis, un coup du fromage de chèvre, un coup une faisselle, un coup un yaourt, on est aussi sur une diversité. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de ne pas les exclure. Mais si vous avez l'impression d'en abuser, peut-être, par rapport aux recommandations, donc 2 à 3 produits laitiers par jour seraient a priori suffisants. Si vous avez l'impression que c'est vraiment en excès, se dire, tiens, est-ce qu'à la place, je ne peux pas en effet faire rentrer autre chose ?
Juste, j'ai encore une dernière question. Combien vraiment il faudrait de fruits et de légumes par jour pour vraiment être en bonne santé et avoir une bonne alimentation ?
Ah, j'adore cette question. Super. Alors, les fameux 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est vraiment un message de prévention en santé publique. Mais il fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il faudrait manger un ananas, un concombre, une courgette, une courge et puis des fraises. Enfin, je schématise et j'exagère. Ce qui est important, c'est qu'on peut raisonner en termes de portions, d'accord ? Les fruits, par exemple, vous prenez votre poing, ça s'adapte à votre morphologie. Une portion de fruits, c'est un poing. Donc, on peut imaginer que vous mangez 2 portion de fruits dans la journée, d'accord ? Et puis ensuite, si vous, à midi, vous avez une assiette qui est composée de féculents, protéines et puis, je sais pas moi, des épinards, vous avez a priori 2 portions de légumes, donc on en est déjà à 4. Si le soir, vous consommez un petit bol de soupe, vous êtes sur vos 5 portions de fruits et légumes par jour. En fait, ce message de santé publique, il n'a pas été formulé de façon très idéale, d'accord ? Donc, parler en termes de portions, en général, c'est un peu plus aidant et c'est déculpabilisant. Tu as fait moins peur. J'ai répondu à ta question ?
Oui. Juste, c'est encore une dernière question. Est-ce que c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, que les œufs crus, ça rapporte beaucoup plus de vitamines, enfin d'énergie, protéines. Que les œufs, oui, protéines, que les œufs cuits ?
Alors la cuisson des œufs, elle peut avoir une influence en effet parce que la qualité des protéines et l'absorption et l'assimilation va être différente. Par contre, ça peut être quand même très dangereux, oui tant pis je vais utiliser le terme, de consommer des œufs crus dans la mesure où il y a quand même une hygiène qui doit être très stricte, un temps entre la préparation et l'ingestion qui doit être très court. Donc des œufs crus, on va en avoir par exemple dans une mayonnaise, d'accord ? Donc une mayonnaise fait maison, on va la préparer, on va la consommer, elle va être gardée au frais. Il y a vraiment des critères à respecter, d'accord ? Se mettre à manger des œufs crus pour imaginer en retirer des bienfaits, pas spécialement intéressant. Par contre, on peut être sur des cuissons type œufs mollets. Si on a des œufs extra frais, on peut faire des œufs à la coque. Dedans, le jaune, par exemple, il va rester coulant, d'accord ? Et là, la qualité nutritionnelle est au rendez-vous et on ne prend pas trop de risques.
Est-ce qu'il faut prioriser les produits transformés, enfin les en bannir, et garder ceux qui sont non transformés ?
Alors manger, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, le plus brut possible, le plus proche de la nature, oui, c'est bénéfique. Si on mange de temps en temps des biscuits, de temps en temps une pizza industrielle, c'est pas la fin du monde, mais nutritionnellement, ça sera beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, sur votre étiquette, plus la liste est courte, plus elle ressemble à ce que vous avez dans votre placard, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez des E, je ne sais pas combien, 119, 120 dans votre placard, a priori non. Donc plus elle ressemble à ce qu'on a, plus c'est un gage de qualité, que c'est un produit qui se rapproche en fait, de ce que vous pourriez faire à la maison, donc entre guillemets, transformer des aliments bruts.
Et juste, est-ce que c'est, pas dangereux, mais est-ce que ça fait du mauvais au corps qu'à chaque goûter, on mange des gâteaux qu'on achète au magasin et tout parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en faire. Et du coup, souvent, on en achète déjà fait.
Ouais. Alors, le risque, on ne va pas culpabiliser les parents hein, parce que tout le monde n'a pas le temps forcément de... Alors déjà, les ados, vous pouvez préparer des gâteaux. Souvent, c'est simple. Hein, vous avez plein de recettes. Vous êtes capable de le faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième, je réponds après à ta question vraiment, mais la deuxième, c'est le pain. Le pain avec du chocolat, c'est parfait. Hein, c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps. Ça marche très bien. On peut avoir un produit laitier, on peut avoir un fruit, on peut avoir des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Ça marche aussi hein, pour le goûter. Et si on prend des biscuits industriels, le risque, c'est au niveau de la liste des ingrédients, d'accord ? On va en avoir dans lequel il va y avoir beaucoup de sucre. Le sucre ajouté va être vraiment en excès, même par rapport à ce qu'on pourrait faire à la maison, d'accord ? Si ce sont des biscuits qui sont enrichis en fibres, ça va être plus intéressant nutritionnellement. Et puis le risque, c'est que dedans, il va y aussi avoir ce qu'on appelle des exhausteurs de goût, des choses qui font qu'on va avoir plus envie d'en manger. Donc on va en consommer peut-être plus que de raison. Et en général, ces biscuits sont quand même moins nourrissants que ce que nous, on peut fabriquer, notamment par rapport à cette richesse en fibres, par rapport à la qualité des farines, la qualité de l'huile ou du corps gras qu'on va mettre dedans. Et donc, on va avoir tendance à en manger plus.
Oui, mais en fait, moi, je mange, enfin, quand j'en achète, j'achète que souvent des gâteaux bio. Est-ce que ça change quelque chose ou ça change vraiment rien du tout ?
Alors, le bio, c'est un gage de qualité par rapport au produit, par rapport à son mode de production, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de pesticides, par rapport au fait qu'il soit exempt d'additifs qui soient néfastes et dangereux pour la santé. Mais bio ne veut pas dire sans sucre ajouté. On peut avoir des gâteaux bio qui sont catastrophiques en termes de sucre.
Ok.
Imaginons, on prend deux yaourts, il y en a un qui a avec des arômes de fruits et l'autre avec des morceaux de fruits. Lequel est à peu près meilleur pour la santé?
C'est à peu près équivalent. En général, même dans le yaourt aux fruits, il y a des arômes dedans. Les yaourts aux fruits, c'est un petit peu une supercherie, d'accord? Donc, soit vous mangez un fruit en morceaux que vous rajoutez dans votre yaourt nature, voilà, soit ça n'a pas spécialement d'intérêt, d'accord?
Et est-ce que, par exemple, une glace en été, si on mange souvent des glaces, par exemple, à chaque dessert d'été, quand il fait vraiment très très chaud, à chaque dessert le soir et le midi, est-ce que ça va venir faire du mal à notre corps ou pas?
Ça va être un petit peu le même problème des gâteaux, c'est-à-dire que dans la balance, le sucre va être en excès. Donc on peut imaginer peut-être de prendre, je sais pas, des petits Suisses, genre des petits Suisses aromatisés, de les mettre au congélateur, de faire des glaces à l'eau maison avec juste un petit peu de sirop. Mais les glaces industrielles à chaque repas, oui, on va être vraiment sur du sucre en excès à la fin de l'été.
Est-ce que notre alimentation, elle peut être risque de problèmes cardiaques?
Oui, tout à fait. Ça peut être vecteur de maladies cardiovasculaires. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on citait, par exemple, le cholestérol. D'accord? Si on a vraiment un excès de gras, pas forcément, on va dire, le gras qui n'est pas forcément idéal, qui n'est pas forcément d'une bonne qualité nutritionnelle, par exemple, hein, mais pas que, hein, même au niveau du sucre, oui, on sait que ça peut... Ou un excès de sel, quelqu'un qui ressale à chaque repas. En abondance, oui, c'est un vecteur de risque de maladie cardiovasculaire.
Merci.
Sur ce, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé du temps de votre journée.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.